s'en soulève. À la fin des 70s, tout manque de basculer lorsqu'un coup d'État est sur le point d'être mené contre lui. Mobutu, apprenant l'affaire des confidences d'un adjudant, tord le cou au mouvement. Il peut compter sur des régiments d'espions et de personnel de sécurité particulièrement efficaces, formés par les meilleures organisations du monde. En 1978, s'ensuivent les procès de la Pentecôte, qui vont de nouveau plonger le Zaïre dans l'horreur. 29 accusés doivent se justifier de leurs actes. 13 d'entre eux sont exécutés. Ce moment judiciaire est une totale pantalonnade. Mais le vernis de la nation parfaite commence à se fissurer. Pour faire face à une crise économique galopante et de plus en plus difficile à juguler, le tyran se lance ventre à terre dans une nouvelle politique. La zaïrianisation. Un mot bien compliqué pour dire une chose très simple. Chaque entreprise sur le territoire qui ne serait pas gérée par un zaïrois, mais par des Européens ou des Américains, est immédiatement saisie et nationalisée. Pas de quoi rassurer les marchés et les investisseurs. Pire, les chouchous du régime, placés par le chef, dilapident bien souvent ce qui leur a été donné. L'économie tensée s'effondre. Cet épisode suffit à montrer qu'un énorme système corruptif est présent à la tête de l'État et que la partie se joue parfois à l'insu de Mobutu lui-même. Plus encore que des troubles financiers majeurs, le pays doit faire face à une nouvelle guerre. Au Chaba, des opposants au régime se décident à attaquer le régime par la frontière sud. Ils veulent tenter de renverser Mobutu. Entouré de conseillers, le leader tente de juguler cette rébellion, sans succès. Cela débouche sur l'épisode de Kolwezi. D'aucuns disent que le chef suprême n'a pas hésité à tailler en pièces les civils étrangers qui s'y trouvaient, afin d'entraîner une réaction des puissances occidentales. Les parabelges et marocains sont envoyés sur place, tout comme la Légion étrangère française, rien que ça. Dès leur retour de mission à Kolwezi, des parabelges sont interviewés par les journalistes.
Pardon ? On peut rien dire. Ah non, ça, on a eu des ordres, il n'y a pas de commentaire à faire.
Non, on sait rien dire.
Vous adressez à mon commandant.
Bon, Major, on peut vous demander comment ça s'est passé ?
Ça s'est bien passé.
Et vous avez eu des combats avec les rebelles ?
Non.
Pas d'accrochage ? Vous n'avez pas eu à tirer ?
Non.
Et vous parlez uniquement pour les hommes qui étaient avec vous ou bien l'ensemble des parabelges ?
Je crois que l'ensemble des parabelges. Moi, j'étais dans le secteur avec le 3e bataillon.
Oui.
Non, on n'a pas d'accrochage.
Est-ce que les légionnaires avaient nettoyé le terrain en somme quand vous êtes arrivé ?
Ils étaient en train de faire leur combat.
Quels ont été vos contacts avec les Français ?
On n'en a pratiquement pas.
Au début, j'aurais cru que ça aurait tourné plus mal que ça. Hein.
Au prix de 5 tués et 6 disparus dans la Légion, d'un para tué pour la Belgique et d'un autre pour le Maroc, Mobutu est quitte d'une révolte qui aurait pu entraîner sa chute ou son affaiblissement. Giscard d'Estaing, président de la République française, est ensuite reçu en grande pompe. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien. Plus, ils sont liés par l'amitié. Il en est de même avec Chirac. Mobutu, qui fait sa fortune sur le dos du peuple, ne cesse d'acheter des propriétés en Europe. Il est notamment l'heureux propriétaire d'une magnifique villa en bord de Méditerranée. Et c'est pas tout. Il est de notoriété publique que le président Bush et Mobutu sont très proches. Que le dictateur partage aussi des relations privilégiées avec Baudouin Ier et que le Zaïrois n'hésite pas à ouvrir les vannes pour distribuer des gros billets à ses amis politiques dans le monde. Que faut-il en déduire ? À vous de juger. Mais encore une fois, derrière les dorures et les fêtes, l'histoire se remet en marche. Le chef suprême du Zaïre se croit invincible, divin, immortel. Il se trompe lourdement. Kinshasa. La capitale du Zaïre est en fête. À la tribune, armé d'un bâton étoilé qu'il tend vers le ciel, le président Mobutu ne sourit pas. Il cherche à asseoir encore plus sa place à la tête du pays. Chaque année ou presque, il s'affuble d'un tout nouveau titre. Un coup, il devient magistrat suprême. L'autre, commandant suprême des armées. Les superlatifs, bientôt, ne suffisent plus. Mobutu veut plus. Pour faire taire toute idée de contestation et renforcer son emprise. Alors, pourquoi ne pas devenir, roi du Zaïre ? Après tout, ne l'est-il pas déjà en creux ? Non, ce serait pas mal. Il vaut mieux se contenter des titres et des médailles pour le moment, du moins. Alors, auréolé de ses derniers succès militaires pour lesquels il a bien été aidé des Occidentaux, le tyran se fait proclamer seul et unique maréchal du pays. Rien que ça. Le bâton qu'il tend fièrement aux militaires qui défilent devant lui ressemble à ceux distribués par un certain Napoléon. Outre-temps, même mœurs. Mobutu n'en a pas terminé avec ses rêves de grandeur. Bien au contraire. Il ne s'en cache même pas.
J'ai voulu placer la célébration de ce 16e anniversaire de notre parti national sous le signe du grand pardon. Aussi ai-je pris la décision suivante. Primo, amnistie générale est accordée à tous les citoyens zaïrois condamnés par jugement définitif du chef d'atteinte à la sécurité aux institutions du Zaïre. Secondo, toutes les personnes suspectées et se trouvant actuellement détenues ou assignées à résidence doivent être remises en liberté. Tertio, amnistie générale est également accordée à tous les Zaïrois résidant à l'étranger et n'ayant pas la parole.
Face à l'armée qui reste stoïque, cette prise de parole vise à provoquer la peur. Le chef sent que son autorité peut être mise à mal. La contestation, il veut la tuer dans l'œuf. Pour celles et ceux qui voudraient se révolter à nouveau, il annonce la couleur.
Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison.
Mobutu devient donc le papa maréchal, le bon père de la nation. Celui qui donne et qui reprend. Mais il ne faut pas se laisser abuser par les dorures et l'apparence des fastes. Le pays va mal. Et ses habitants ne vont pas tarder à se détourner de l'ogre qui les dirige. Enfin. Le leader n'est pas dupe. Sa popularité est en berne. Alors quoi de mieux que des élections en 1984 pour redonner la parole au peuple, ou bourrer les urnes et truquer les résultats. Depuis son arrivée au pouvoir, Mobutu se plie au jeu électoral tous les 7 ans. Et qu'on se le dise. Les Congolais n'ont pas le choix. Et pour cause. Le maréchal est l'unique candidat à sa succession, mandat après mandat. Le peuple souffre et il ronge son frein pendant que son leader se pavane. L'instabilité n'est pas réglée. En 1989, aux Nations Unies, alors que Mobutu prend la parole devant les dirigeants du monde entier, son discours est émaillé de protestations d'opposants. Aux États-Unis, il est plus difficile de les faire taire. Ceci n'est qu'un début. La diplomatie, bientôt, n'est plus suffisante. En avril 1990, après 25 ans de pouvoir personnel et avoir lancé une consultation populaire, Mobutu décide de mettre fin à la politique du parti unique. Sont-ils le vent tourné ? Difficile à dire. En tout cas, il se retire de la présidence du mouvement populaire de la Révolution, le parti qu'il a fondé. Certains n'hésitent pas à dire que la tournure des événements dans le monde entier et dans le pays lui force la main. La chute du mur de Berlin et de l'URSS participe à faire tenser le régime, alors que sa position de rempart contre le communisme n'a plus lieu d'être à l'international. Des voix de plus en plus fortes s'élèvent contre Mobutu. Ces renseignements parlent de l'imminence d'une nouvelle guerre civile. Pour tenter de garder son influence, un retour à la démocratie semble la meilleure option. Une grande conférence nationale est lancée avec cet objectif. Le chef suprême et ses sbires estiment que les participants n'élèveront pas le ton contre lui et sa politique. Ils se trompent, lourdement. Ces dérives totalitaires sont d'emblée au cœur des discussions. Des émissaires de tout le pays se rassemblent pour tenser sa toute-puissance. Dans la rue aussi, certains n'hésitent plus à le critiquer. La situation lui échappe. Ses liens avec ses alliés d'hier se distendent. Et en particulier, ceux avec le roi des Belges. Alors, tentative de la dernière chance, la conférence est suspendue par le leader. Fin de la démocratisation du pays. Mais l'opposition s'est structurée. Elle se lance à ses trousses. En février 1992, la marche des chrétiens, mouvement pacifique, vise à démontrer la puissance de la contestation. L'armée, encore, tire à balles réelles. Mais cette fois, la donne a changé. Les gens refusent de se taire. Chaque mort les mobilise davantage. Le chef accepte de partager son pouvoir avec le président du Parlement. Mobutu quitte Kinshasa et décide de rejoindre son luxueux palais, installé dans sa région de naissance. Il cherche à se glisser dans l'ombre pour faire redescendre la pression, en vain. Même à 1000 km de l'épicentre, son nom est sur toutes les lèvres. C'est parce qu'il refuse de lâcher la bride. Le boss, c'est lui. Pourtant, bientôt, le Versailles de la jungle, comme il le fait appeler lui-même, ne sera plus que ruine et désolation, tout un symbole. Alors que Mobutu se retire de la première ligne, sans pour autant quitter son poste, la nation plonge dans la plus grande instabilité, sans direction. Le pays ne paie plus ses fonctionnaires, ni ses militaires, qui se transforment en pilleurs et en assassins. La peur et la souffrance dominent de tous les côtés. La famine guette les villes et les villages. Le chef reclus provoque l'horreur à bien des occasions. Le but, reprendre les rênes avec une force brutale, quitte à affamer et terroriser les siens. Mais il faut bien le dire, les caisses sont vides. Le système ne peut plus se protéger des attaques de ses opposants, ni nourrir sa population. La tragédie de la perte de son fils, Kanga, lui permet de regagner de la popularité au niveau national. Mais Mobutu devient parano. Il pense qu'il est victime de magie noire. Ses pratiques ésotériques interrogent. Il tente de s'accrocher. Mais ni sa fortune, ni les menaces ne peuvent suffire à lui faire reprendre le dessus. Sa santé vacille. Malade, il n'a plus la même force, la même aura. Là, écrasé par une économie en déliquescence et par la faim, des soldats se dressent contre le chef. Une partie du Zaïre se soulève, entraînée par Laurent Désiré Kabila. Il est aidé par le Front Patriotique Rwandais et l'Ouganda. Ce partisan de Lumumba va devenir en quelques mois le visage qui permet aux Zaïrois de reprendre espoir. Mobutu doit se rendre à l'évidence. Il est temps de passer la main. Mis au pied du mur par l'avancée toujours plus impressionnante des hommes de Kabila, il va rencontrer le chef de la rébellion. Après des manifestations toujours réprimées dans le sang, il est abandonné de tous, sans distinction. Le 17 mai 1997, tout est fini. Les insurgés investissent Kinshasa sous les vivas. Le Zaïre est mort, son chef prend la fuite au tout dernier moment. Kabila devient le nouveau président. Le pays n'en a pas fini avec ses plaies. Les nouveaux venus règlent leurs comptes avec les anciens. Bien des hommes et des femmes, jugés fidèles à Mobutu, vont mourir. Le tyran meurt au Maroc moins de 4 mois après son départ, à l'âge de 66 ans. Le règne de Mobutu n'aura été qu'une affaire de superlatif, érigé au rang de Dieu, le souverain baroque, comme le nomme le réalisateur Thierry Michel, a été des dizaines d'années à la tête d'un système sanglant et coercitif. De son ascension à sa chute, son règne sonde les profondeurs de la nature humaine. Ancien journaliste, se retournant contre son ancien mentor, l'homme est devenu un chef autoritaire qui n'a eu de cesse d'affermir son pouvoir pendant 3 décennies. Ni les vies humaines, ni le devenir de son pays n'ont compté dans son esprit. Avec une rapacité et un sens de la diplomatie qui l'ont maintes fois sorti d'affaire, Mobutu s'est mis des milliards de dollars au fond des poches. Un argent dont le Congo, devenu Zaïre, n'a jamais vu la couleur. Ce parcours au cœur de l'Afrique a entraîné des conséquences terribles pour ce territoire. Trésor du continent, regorgeant de beauté et de richesse, sa population n'aura pourtant connu qu'instabilité, pauvreté et souffrance. Plus de 25 ans après son départ, le mythe du chef bâtisseur continue de circuler. Malgré l'inénarrable vérité, Mobutu était un homme complexe, aussi intelligent que manipulateur ou tyrannique. Sa longue présence à la tête du Congo a apporté bien plus de malheurs que de bénéfices. Et le pays continue d'en payer les pots cassés. Les troupes des rebelles M23, soutenues par le Rwanda, qui dilapident les richesses minières de la RDC sans être réellement condamnées, n'ont de cesse de s'infiltrer dans les terres et de rejouer le numéro de la terreur. Des millions de gens, jetés dans les bras de l'exil, continuent de souffrir. L'État islamique, lui aussi, lance régulièrement des raids afin de prolonger le chaos devenu chronique dans une bonne partie du pays. La conséquence la plus terrible de ces heurts est l'enracinement d'une crise humanitaire et humaine, aussi dommageable que profonde. On pourrait presque dire que c'est toujours la même histoire qui se déploie au Congo. Le pays a tout pour devenir l'un des moteurs économiques du continent africain. Plus encore même, une future locomotive mondiale. Mais ses fragilités, qu'elles soient étatiques, économiques ou sécuritaires, tout comme les intérêts étrangers, empêchent une profonde mutation. Elle est pourtant salutaire. Une prise de conscience réelle, en premier lieu des instances internationales, est la seule voie qui permettra de préserver son intégrité. Souhaitons que les Congolaises et Congolais puissent bientôt connaître la paix et la prospérité.